c'est par rapport à l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos vies. Déjà par l'obtention de permis du Benjamin, mais ça, je pense que vous avez déjà suivi par mail. Donc, c'est franchement une énorme victoire sur l'esprit de crainte. Et gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais surtout, ce qui nous a été révélé, c'est la puissance de la chaîne de la prière. Cette fois, on l'a vécu, on l'a vu. Et on n'était pas juste un maillon, mais on a vu toute cette chaîne et tout ce qui se déversait au travers de cette puissance. C'était énorme comme l'aigle du Saint-Esprit pouvait enserrer cette crainte et la réduire à l'état d'un petit rat qui restait immobile et qui ne bougeait plus. C'était extrêmement puissant et magnifique. On a vécu un shalom surnaturel tout au long de cette journée avec Benjamin et voilà. Ça c'est la parenthèse, mais il y a une guérison aussi miraculeuse qui est intervenue chez Chloé, notre petite fille. En décembre, elle s'était cassée, enfin elle avait fracturé légèrement la cheville. La radio qui a révélé la fracture a révélé un trou dans l'os du tibia. Et le trou était suspect. Donc, ils ont demandé une IRM. Mais ils ne nous ont dit que, au bout de donc un mois, on a attendu le résultat de l'IRM. Au bout d'un mois, on a su pourquoi ils avaient demandé l'IRM. Il y avait une suspicion de tumeur. Donc, ça nous a un peu effrayés. Mais du moment où Stéphane était rentré de l'hôpital avec la radio en me disant « Elle a une petite fracture et un trou dans l'os », j'ai eu cette crainte. Et puis, Dieu m'a dit « Ne crains pas. Ne crains pas parce qu'il ne lui arrivera rien. Mais par contre, proclame. » Tous les jours proclame, ne laisse même pas une seconde à l'ennemi rentrer sur ce territoire. Il n'a aucun droit. Et je l'ai fait, et je l'ai proclamé dans la joie et la paix tout au long. J'avais vraiment pas peur, mais j'ai quand même sollicité autour de moi quelques frères et sœurs pour prier là-dessus aussi. Alors au bout d'un moment, il y a eu la radio de contrôle, le trou s'était réduit. Alléluia, merci Seigneur. Deuxième radio de contrôle, le trou n'était plus qu'une petite, un petit trait sur la radio. Et dernière radio de contrôle, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu.
C'est un privilège d'être ici et de voir tout ce que Dieu fait. Dieu est grand. Tous les jours, il est bon. Tout à l'heure, quand on a chanté « Toujours bon », j'avais cette pensée, et je vais noter dans la Bible tous les mots, tous les versets qui commencent par « tout ». Tout est possible à celui qui croit. Tous les jours, il est bon. Tous les péchés sont pardonnés. Toutes les maladies sont guéries. Tout ce qui est né de nouveau triomphe du monde. Tout genou fléchira devant Dieu. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur et roi et ressuscité, etc. Faites voir à la maison ce devoir de remettre sur une grande page tout ce qui commence par tout. Alors vous avez vos petits toutous et vous pouvez voir que c'est vraiment fantastique que tout est à toi. Et tout est aussi à toi. Je trouve cette église un peu dispersée, l'aile gauche, l'aile droite, le centre. Enfin, qu'importe, j'espère que ce n'est pas voulu. Chacun a ses habitudes. Mais je me réjouis d'être là. Et peut-être parce que ce soir, c'est Pessah. Je prononce le mot Pessah, Pâques. Je suis content parce qu'on vit en Allemagne depuis 36 ans. J'ai rencontré ce soir Christiane, anciennement Rop, qui était avec moi au GBU en 1968, 69, 72, et toi aussi. Alors, vous voyez, ça fait 42 ans et plus. Elle a abouti quelque part une semence, un arbre qui pousse dans le Gers. Moi, je pousse en Allemagne, je suis, si vous voulez, l'allemand français ou le français allemand, on ne sait plus trop ce qu'on est. Mais ça ne fait rien. Dieu est merveilleux, il est fidèle et un jour on se rencontrera tous dans le ciel et on se reconnaîtra. On dira, oh, je t'ai vu. On ne se reconnaîtra pas au visage parce qu'il change, mais on se reconnaîtra à l'esprit qui sort par les yeux, à l'esprit qui sort par les pores de ta porte, de ton corps. Ok. Je voulais simplement dire qu'on fête Pessah. Et tout à l'heure, quand on était là en train de chanter, j'avais subitement cette vision. Et à un moment donné, c'était assez fort, c'était du vent. Après, c'est devenu plus calme, mais c'est normal. C'est le vent de Dieu. C'est le vent de Dieu. Et j'avais l'impression qu'ici, il y avait dans la salle des voiles qui n'étaient pas déployées. Et que Dieu voulait que tu déploies un peu le voile. Bouge le petit doigt ou bouge la jambe ou fais quelque chose. Déploie tes voiles pour que le vent de Dieu puisse te pousser. Et alors j'avais vu dans Ésaïe chapitre 33, lisez-le à la maison, j'avais lu que Jérusalem est une ville pleine d'eau. Il n'y a pas un ruisseau à Jérusalem en ce moment. Il n'y a pas d'eau. Donc, il y avait là des bateaux, il y avait là des fleuves, et que ces fleuves étaient tranquilles comme la mer de cristal. C'était la paix que Dieu amenait sur ton fleuve. Et c'était marqué après l'histoire des voiles qu'il fallait les déployer. Alors j'ai eu cette pensée. Dieu dit, et parce que c'est Pâques, parce que c'est Passa, et je suis content qu'en français, le mot Pâques existe. En allemand, il faut dire Ostern, Ostarium, c'est une divinité de la fécondité, etc. C'est pas bon du tout, mais soyez content que vous ayez le français pour dire Pâques. Pessah, c'est le même mot. C'est le même mot. Pâquerette, c'est aussi le même mot. Parce que ça pousse à ce moment-là. On a appelé les pâquerettes. Pâquerettes, et ça vient de Pâques. Qu'importe. Et si vous voulez, c'est ça l'important. C'est que nous pouvons nous souvenir que Dieu a fait quelque chose à Pâques. Tout à l'heure, quand tu as commencé, tu as dit, j'ordonne que ce soir, il y ait l'esprit de résurrection au milieu de nous. Je ne tolère ni maladie, ni mort, ni murmure. Je ne tolère aucun germe qui soit contre la vie dans cette salle. Un peu dans cette direction, ok. Et c'est vrai. Nous ne tolérerons pas la mort. Nous ne tolérerons pas tout ce qui détruit. Nous ne tolérerons pas tout ce qui est contre la puissance de l'esprit de résurrection qui est en nous. Si l'esprit qui a ressuscité Christ entre d'entre les morts est en toi, vous connaissez. Et Romains 8, verset 11, il rendra la vie à ton corps mortel, maintenant. Ton corps mortel, il n'existe plus au ciel. La maladie, c'est fini au ciel. Jésus guérit ici, pas plus tard. Il rend la vie maintenant. Au ciel, tu n'as pas besoin de ça. Tu es dans la gloire. Mais c'est maintenant que Jésus veut rendre la vie à ton corps mortel, par cet esprit de résurrection. Et aujourd'hui, oui, je n'ai pas fini ce que j'ai vu avant, mais je saute d'un truc à l'autre, excusez-moi, je parle, j'ai rempli mon cœur, mais je parle comme Dieu me montre que je dois couler. Et j'avais vu tout à l'heure que je voyais ces voiles qui n'étaient pas déployées. Je voyais des gens qui avaient des voiles qui étaient là, mais ils n'osaient pas les déployer. Ils avaient peur de les casser à cause du vent. Ils avaient peur de s'engager parce que le vent pouvait dégrader quelque chose. Le Seigneur dit, n'aie pas peur d'aller sur l'eau, n'aie pas peur de mettre les pieds là où tu ne les as jamais mis. Déploie des voiles. Et en allemand, le mot voile, c'est le mot segeln. Segeln. Et vous savez, quand Dieu dit à Israël, tu es mon peuple choisi, il dit, tu es mon ségoula. Tu es mon ségoula. Ségoula li amim. Tu es mon ségoula parmi les peuples. Tu es le. C'est écrit dans Exode chapitre 19, verset 4 par là, quand il dit, tu es mon peuple choisi parmi les nations. Et aux chrétiens, il dit la même chose. Il dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 environ, il dit, « Vous êtes un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple choisi. » Le même mot « ségoula ». « Ségoula », c'est de l'hébreu, mais ici, c'est du grec, c'est marqué « un peuple péripoiesis, poète, un peuple qui est tricoté autour de moi, tu es un poème autour de moi, Jésus. Jésus est entouré de plein de poèmes. Vous êtes tous des poèmes inédits qui entourent Jésus. C'est ça, le peuple choisi. C'est ces mots ségoula. J'aime bien ce mot parce qu'il revient aussi dans le Cantique des Cantiques. Quand il dit ségoula, li. Moi, j'aime bien parce que ça veut dire, en vrai dire, tu es mon trésor. Le seul trésor que j'ai. Et d'ailleurs, moi j'aime bien, si vous voulez, l'étymologie et Je travaille beaucoup la ressemblance consonantique dans nos langues indo-européennes avec l'hébreu. C'est un peu mon dada. Et puis, j'ai trouvé qu'il y a, par exemple, le mot « ségoula » et le mot « violet », « sagol », c'est le, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle. « Sagol » et « ségoula », c'est la même chose. « Ségoula » veut dire « le violet ». Où est-ce qu'on trouve dans la nature du violet ? Des violettes. Mais je parle maintenant de l'arc-en-ciel. Est-ce que vous voyez le violet ? Non. L'ultraviolet ? Non. On a la peine à distinguer le violet dans l'arc-en-ciel. Ça veut dire que tu es caché dans l'alliance de Dieu. On ne peut pas te sortir de là. Tu es le sagol, le ségoula de Dieu. Cette puissance que Dieu a fait de nous, il a fait ce violet de l'arc-en-ciel. On ne peut pas nous sortir de son alliance. Il faut comprendre ça. Tout est à toi. Ségoula, ségolène peut-être, ça vient certainement là. Ségoula. C'est autre chose, mais c'est certainement, ça vient de là. Que le Seigneur la bénisse. Bénissons Ségolène. Prions que tu lui parles ce soir au nom de Jésus. Amen. En tout cas, nous fêtons la Pâque. Ce soir, il fait nuit. Je trouve que c'est sensationnel que vous ayez choisi la fête de Pâques la nuit. Dans le passé, les premiers chrétiens, ils fêtaient toujours leur culte la nuit. Pourquoi ? Parce que le premier culte chrétien a eu lieu cette nuit-là, cette nuit où Christ est ressuscité. Et à vrai dire, ils attendaient la résurrection de Christ. Et finalement, les chrétiens se sont devenus fatigués et ils se sont retrouvés le dimanche matin. Au lieu de fêter ce qu'ils appelaient la réception de la nuit du Kurios. J'ai un pasteur dans mon patelin qui a écrit une thèse de doctorat de théologie sur la réception de la nuit du Kurios. Il voulait dire de la nuit de Pâques. Et les chrétiens se retrouvaient, et ce soir, à Akern, où je vis, ils se retrouvent à 22h. Normalement, ils devraient faire jusqu'au chant du coq, mais ils ne le font pas à l'église protestante officielle. Ils le font une partie de la nuit. Et le matin, ils vont au cimetière à 6h. C'est comme ça qu'ils fêtent la Pâque. Ils auraient, avec les clairons pour proclamer la résurrection aux morts. Je trouve ça puissant. Il y a des choses que nous avons perdues. Il faut absolument croire que Dieu ressuscite réellement les morts. Et c'est pour ça que finalement, le culte du dimanche matin, de chaque dimanche matin, il célèbre la résurrection des morts, il célèbre la résurrection du Seigneur, et c'est le thème de chaque culte du dimanche, la résurrection. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Voilà ce que nous devrions faire. Et c'est là, sont donc bons de fêter Pâques le soir. D'ailleurs, dans la Bible, toutes les grandes choses sont arrivées la nuit. Israël est né la nuit. Jacob est devenu Israël la nuit. Jésus est né dans la nuit de Bethléem. Réfléchissez. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte la nuit. Dieu aime la nuit. Il aime le jour, mais il aime la nuit. C'est pour ça qu'il fait des grandes choses la nuit. N'ayez pas peur de la nuit. Dieu aime la nuit et fait des grandes choses aussi dans nos nuits dans lesquelles nous sommes engagés. Je pourrais avoir un peu d'eau. Christiane, elle a de l'eau. Ça va, elle a de l'eau. Je voudrais... Maintenant, peut-être qu'on place cette table de la Sainte Cène ici, parce que ouais, c'est bon comme ça. Tu peux enlever juste cette bouteille. Et non, laisse ça ici. C'est très bon ça. On va avoir des symboles maintenant. Si vous voulez, Pessah ou Pâques, c'est une fête juive et chrétienne maintenant. Et ce n'est pas un hasard que ça coïncide. C'est voulu par Dieu. Malheureusement, ça ne coïncide pas dans le calendrier chrétien. Parce qu'il y a eu des pères de l'Église qui se sont séparés du judaïsme en deuxième, dans les premiers siècles. Chrysostome, par exemple, a dit « N'allez pas à la synagogue et ne fêtez plus les fêtes juives. » Mais les fêtes juives, ce ne sont pas des fêtes juives. Dans la Bible, c'est marqué « Ce sont les fêtes de Dieu ». Ça s'appelle dans la Bible « Fête le Moédim Yahvé » dans Lévitique chapitre 23. Ce sont les fêtes de Dieu, pas les fêtes juives. Les fêtes de Dieu qu'il faut fêter jusqu'à épuisement, jusqu'en éternité, il faut les fêter, c'est marqué. Lisez Lévitique 23, c'est les fêtes qui appartiennent à Dieu. C'est Moed, c'est le mot fête qui veut dire, comme en grec ils disent kairos et chronos. La chronos c'est ma montre et kairos c'est des moments déterminés, prédestinés que Dieu a choisis. Au moment venu, Jésus est né à Bethléem. C'est un moment précis, un kairos. En hébreu, on dirait un moed. Un temps précis. Et il y a des temps précis de Dieu pour chacun de nous, et aussi dans le calendrier mondial, dans le calendrier où Dieu va amener le monde. Où ça ? Il va amener le monde au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va apparaître, Christ va être là, tous les gouvernements de nos nations vont disparaître, il n'y aura plus François Hollande ni Angela Merkel, tous ceux vont disparaître en un instant et il y aura le gouvernement de Dieu ici. Voilà ce que Dieu va faire. Ni de Poutine. Ils seront tous partis, tous, en un instant. Cette montagne descendra du ciel, dit Daniel, comme un caillou, ça frappera la statue des nations et ça s'effondrera et la montagne, le caillou deviendra une montagne qui remplira la terre. Royaume de Dieu, chapitre 2 dans Daniel. C'est en train d'arriver, mais il y a des oppositions, mais Dieu est plus grand. Donc, si vous voulez, ces fêtes de Dieu, je ne sais pas, c'est sûr, je voulais vous montrer, une fois malheureusement, je ne suis pas donc tellement électronique, mais c'est une image que j'ai copiée d'un calendrier juif normal. J'ai tous les ans le calendrier juif, et les juifs de Strasbourg, où il y a le calendrier le nôtre et les calendriers juifs à côté. Et ça, il y avait devant de belles images. Ça montre l'arbre des fêtes. L'arbre des fêtes juives, c'est un arbre de vie. C'est très beau, je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais ça me touche beaucoup de voir. Il y a les 7 fêtes de Moïse, plus encore 2 autres, qui ne sont pas de Moïse, Pourim et Hanouka. Et cet arbre des fêtes, c'est un peu un arbre de la vie. Les fêtes de Dieu, c'est en quelque sorte le plan du salut qu'il a prévu pour ce monde, et qui va arriver à des moments précis où il va introduire toutes les étapes de ce salut. Les fêtes juives représentent le plan du salut que Dieu avait par son Messie. C'est pour ça que Jésus dit qu'il accomplit les fêtes. Il a écrit, Jésus, qu'il a accompli, qu'il veut maintenant dans Luc chapitre 22, versets 14 et autres, c'est marqué, il a dit à ses disciples, « Mes amis, il me tarde, il me brûle de célébrer cette Pâque avec vous. » Mais il n'a pas dit célébrer, de manger cette Pâque avec vous et de boire cette Pâque avec vous. C'est pour ça que j'ai mis cette table ici. Parce que la synthèse du repas de Pâques, de Pessah, qu'on appelle la veille de Pâques, la veillée de Pâques, en hébreu, le seder abend, le soir du seder. Seder veut dire l'ordre. Tous les juifs ont fêté la Pâque lundi soir, lundi dernier,
Et donc, ce soir-là, tout le monde est réuni autour d'un repas d'abord. Un bon repas, mais d'abord, il y a les symboles qui sont expliqués, et après aussi, et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est ce qu'on appelle le repas du Seder. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur ce repas du Seder. Vous l'avez déjà fait ici, nous on l'a beaucoup fait à l'église, même avec les enfants, vous aussi, Luc nous l'a dit. Et c'est très important, c'est très ennuyeux de suivre ce repas du Seder à Jérusalem parmi des juifs qui ne sont pas messianiques, parce que c'est long, ça dure des heures, et c'est monotone, c'est religieux, et on s'ennuie. Mais quand c'est expliqué, pourquoi ça, qu'est-ce que ça représente de Christ, tout ça, ça devient palpitant. Donc il faut bien voir, ça s'appelle le Seder messianique, c'est les juifs messianiques l'ont expliqué, mais je pense que nous devons simplement honorer ce peuple, parce que c'est la fête la plus ancienne qui existe dans l'univers. Depuis 3500 ans, on fête la fête de Pâques. Je ne sais pas s'il y a un autre peuple, une autre culture qui fête une fête aussi longtemps. 3500 ans de fête de Pâques. Et Jésus, quand il est venu, Luc 22, verset 14, il a dit, « Il me tarde de faire ça, de manger avec vous la Pâque, parce que je ne boirai plus, je ne mangerai plus ça jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. » Il me tarde de l'accomplir. Jésus a accompli les fêtes juives. Et vous savez, quand vous regardez cet arbre des fêtes, vous avez un premier bloc de fêtes, c'est les quatre premières fêtes qui est déjà accompli. C'est la fête de Pâques, et ensuite, très belle fête, la fête de Pâques, comme nous l'appelons, elle a en réalité trois fêtes en une. C'est la fête, si vous voulez, de Pessah. C'est là où ils ont sacrifié l'agneau. Ils ont mis le sang de l'aspersion sur les portes pour être sauvés. C'est le soir du Seder. Ils ont tué l'agneau. C'est toujours à la même date. Et nous n'avons pas la même date. Ça, c'est dû au Père de l'Église. Les Juifs fêtent la Pâque le 14 du mois d'Abib ou de Nissan. Le 14 du mois, nous fêtons la Pâque le premier dimanche après la première pleine lune du solstice de printemps. Voilà la définition. Donc c'est au plus tôt le 21 ou 22 mars. Ça dépend. Ça c'est une définition des pères de l'Église qui n'est pas bonne du tout. Qu'importe, on n'a plus le calendrier des Juifs, mais on devrait fêter la Pâque avec les Juifs. Ce serait normal. Parce que dans cette fête, il y a cette fête de l'aspersion du sang. Et ensuite, c'est le Seder. Ensuite, il y a le Shabbat. C'est le 15, c'est-à-dire c'est le repos. Mais ce n'est pas forcément un samedi, le Shabbat. C'était un mardi aujourd'hui, cette fois-ci. Et ensuite, c'est marqué le lendemain du Shabbat, quand vous entrerez dans le pays promis, vous prendrez une gerbe, une première gerbe d'orge, de la moisson, et vous la lèverez de la terre et vous l'agiterez à droite, à gauche, dans toutes les directions. Et c'est la fête de la gerbe. Et c'est à ce moment-là, le lendemain du sabbat, pour nous le dimanche, que Jésus-Christ est ressuscité. C'est la gerbe qui est sortie du tombeau et qui a été agitée de côté et d'autre. Quand ils l'ont fait à Jérusalem, Jésus est sorti du tombeau. Et c'est au jour même où ils ont sacrifié l'agneau, à 15 heures de l'après-midi du, c'était à vrai dire, ce 14, puisque les Juifs commencent le comptage le soir. Le jour commence le soir, quand le soleil se couche, et se finit quand le soleil va se coucher après. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué des fois, mais ce n'est pas grave. En quelque sorte, Jésus est mort au moment où ils ont sacrifié l'agneau, et Jésus est sorti du tombeau au moment où ils ont agité la gerbe. Est-ce que ce n'est pas fantastique que Jésus ait accompli tout ça? Et cette fête, encore une troisième fête, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, pendant 7 jours, vous ne mangerez pas de pain avec du levain. On appelle ça le pain azim, connu en France, azumos, sans enzymes, le pain azim, ou le pain sans levain. Et Paul a dit que le levain, c'était la méchanceté dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc maintenant, ne prenez plus le pain avec levain, mais prenez le pain sans levain. Vous êtes maintenant du pain sans levain, une pâte pure et sanctifiée pour Dieu. Enfin, nous sommes le pain sans levain. Ça, c'était les trois fêtes. Et après, au moment du jour où ils ont levé cette gerbe, le soir, ils commencent à compter. C'est le comptage de l'Omer. Parce que cette gerbe, en hébreu, se dit Omer. O-M-E-R. Donc, ils comptent les soirs de l'Omer. Et il faut compter 7 semaines. Ils comptent chaque soir. Hein? Ce soir, c'est peut-être le 5e ou le 6e soir de l'Omer. Ils font des prières. Et quand on arrive au 49e jour, arrive le 50e, et c'est la Pentecôte. Pentecosta veut dire le 50e en grec. Donc, si vous voulez, c'est la fête des semaines. Shavuot, c'est la semaine. Shavuot, c'est la fête de Shavuot. Mais cette fête est raccrochée à Pessah avec une corde, comme si Shavuot était le 8e jour de Pessah, arrivant avec 49 jours de retard, avec 7 Shabbat de retard. C'est un bloc. Il n'y a pas de Pessah sans Pentecôte. Il n'y a pas de résurrection sans effusion du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Il faut le Saint-Esprit pour que la puissance de la résurrection soit en nous. Comprenez pourquoi il compte ça? Et cette période de Homer, j'habite par hasard, ma rue où j'habite en Allemagne s'appelle Homer-Skopfstraße. C'est-à-dire, c'est une petite colline, enfin c'est une montagne dans la forêt noire, et sur les pentes, il y avait des céréales dans le temps. Ils disaient, c'était la tête, Kopf, c'est la tête, de là où on plantait des gerbes. C'est de ma maison, je vois cette montagne. De ce fait, Homer, c'est encore en Allemagne un mot qui est connu, quoi. Homer, aussi ici, c'était donc, non c'était Sainte-Mère, non, le débarquement c'était où? C'était pas Homer, mais qu'importe. En quelque sorte, si vous voulez, ce bloc a été accompli. Et les trois fêtes qui restent encore à accomplir, c'est les fêtes quand Jésus-Christ va revenir. C'est la fête des trompettes, donc Rosh Hashanah. C'est là que Jésus va revenir, à Rosh Hashanah. Ensuite, il y a les 10 jours terribles, comme les appellent les Juifs. Et puis, il y a le Yom Kippour, la fête du grand pardon, où toute la terre sera silencieuse parce que Jésus sortira de son temple et dira, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Ce sera le moment de silence pour toute la terre du jeûne. 10 jours terribles, moment de silence. Et ensuite, il y a la fête des cabanes, Sukkot. C'est, si vous voulez, les noces de l'agneau où tous les chrétiens, tous les croyants de tous les âges seront rassemblés pour fêter. C'est fantastique. Pour fêter avec Christ. Ces trois fêtes restent à accomplir. Elles vont s'accomplir en 21 jours. Les premières, c'était 56 jours. Et entre les deux fêtes dans le calendrier juif, on peut compter exactement le nombre de jours qu'il y a entre le premier bloc et le deuxième. Et à 112 jours, j'ai compté. 112 est un multiple de 8, je crois que c'est... Qu'importe, c'est un multiple de 8, ça veut dire que le 8, c'est le chiffre du commencement, du nouveau départ après le 7. C'est pour ça que cette gerbe, c'est après le Shabbat, c'est à vrai dire un nouveau commencement. Le dimanche que nous fêtons, qui n'est pas juste, mais on le fête quand même, c'est le jour du nouveau commencement. C'est le premier de la semaine, mais pour les Juifs, c'est le 8e. C'est le jour du 8e. C'est pour ça qu'on fête ce soir le 8e, on fête un nouveau départ, on fête une nouvelle victoire, on fête la victoire. C'est ces fêtes de Dieu, on pourrait en parler en longueur et en largeur, mais c'est fantastique comme chaque détail est précieux et précis. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas voler aux Juifs ce qui appartient aux Juifs, parce que j'étais un jour avec un pasteur protestant, il m'a dit, vous les chrétiens, enfin nous les chrétiens charismatiques et un peu libres, vous volez aux Juifs le contenu de vos fêtes, de leurs fêtes. Vous les avez déjà volés beaucoup de fois, vous volez leurs fêtes. Non, on ne leur vole pas le contenu, on le respecte, on sait que le Juif, ses fêtes, ce n'est pas fini. Mais ils n'ont pas compris que Christ les a accomplis, que le Messie va les accomplir. Et le Messie, c'est Jésus-Christ, il les a accomplis. C'est pour ça que moi, je les bénis et je respecte aussi devant les Juifs de ne pas faire n'importe quoi avec leurs fêtes, aussi avec le chauffard. J'essaie de ne pas faire n'importe quoi parce que ça les blesse. Donc, il faut être prudent, mais il faut aussi être sûr que Christ est notre Messie et qu'il est aussi le Messie d'Israël. Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire, Pessah? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme mot français, Pessah? Dis-le. Passage, c'est exactement le même mot, c'est les mêmes consonnes dedans. Passage, Pessah, c'est passage. Ça veut dire que c'est le passage de l'esclavage, pour les Juifs d'abord, à la liberté. Si tu vois, pour les chrétiens, c'est pareil. C'est le passage du vieux pain au nouveau pain, à la nouvelle nourriture. C'est le passage des idoles vers la Torah qui arrive au bout. C'est le passage de la douleur à la joie. C'est le passage d'un peuple méprisé à un peuple qui a un trésor pour Dieu. C'est le passage d'un peuple opprimé à un royaume de sacrificateurs, à une nation sainte. C'est le passage de ténèbres à la lumière, si vous voulez. C'est vraiment un passage. Et nous, les chrétiens, nous avons aussi, on a avec Christ l'exode, quand ils sont sortis, c'était un passage, ils sont sortis d'Égypte. Mais nous, nous sommes passés du péché à la vie, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça le passage. Nous avons, quand on rencontre Christ, et nous célébrons ce passage de la mort à la vie, de la vie nouvelle. C'est fini les vieilleries, c'est fini les anciens aliments. On mange une nouvelle nourriture. On mange maintenant le pain sans péché, le pain sans levain. C'est ça le passage. C'est puissant ce passage. Et si vous voulez, le soir du Seder, ils fêtent ça. Ils ont sur leur table, c'est d'ailleurs très bizarre, j'explique juste un symbole. Ils ont sur leur table, tu me montres le plat. Ils ont sur la table un plat avec du pain, mais cette fois-ci c'est du pain sans levain. C'est, si vous voulez, ce pain azim. Et ils ont sur la table trois gros pains azim. Trois, on ne sait pas pourquoi. Non, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ne savent pas, mais ils ont trois pains, voilà. Ensuite, ils ont, ça c'est un plat américain, mais juif, c'est-à-dire c'est là-dessus où il y a les quatre types d'aliments symboles. Ils les mangent, mais symboliquement. Alors, c'est toujours le chiffre 4 qui apparaît à la Pâque. Si vous voulez, c'est 4, c'est le chiffre, si vous voulez, dans la Bible, de la création dans l'ordre divin. Il y a eu 4 visages du Messie, il y a eu 4 évangiles, il y a 4 chérubins, il y a l'autel est carré, Jérusalem est un cube, et ça veut dire que c'est vraiment harmonieux. Et le 4, c'est aussi, on retrouve ce 4 dans la Pâque, pour vous dire que... Il y a l'aliment, si vous voulez, qu'ils prennent d'abord, c'est, ils ont plus de sacrifice, ils ne peuvent plus sacrifier l'agneau, donc ils ont un os. Et donc c'est l'agneau comme aliment. Et le deuxième aliment, c'est ce pain sans levain. Et ils prennent, Christine, tu peux le faire, ils prennent, je ne sais pas pourquoi, ils prennent le deuxième pain azim, et ils le brisent en deux, au début du repas, et ils le mettent de nouveau moitié en dessous, et l'autre moitié, le chef de famille l'emballe, et durant le repas, il va le cacher quelque part, où personne ne peut le voir, Et à la fin du repas, maintenant vous l'avez vu, à la fin du repas, il demande aux enfants de chercher la partie cachée. Et celui qui trouve la partie cachée recevra une récompense à la Pentecôte. À la Pentecôte. La récompense du Saint-Esprit. La partie cachée, c'est celle qui était enveloppée dans un linceul, qui est allée dans le tombeau et qui a été brisée au départ, parce qu'il le brise, c'est pour ça aussi nous brisons notre pain à la Sainte-Cène. Et cette partie cachée, il le mange à la fin, comme dessert si vous voulez, après le bon repas. Ça prouve qu'ils font des tas de symboles qui pour eux n'ont pas trop de sens, mais pour nous, nous les comprenons. Et si vous voulez, le résumé, la synthèse de ce repas du Seder, c'est la Sainte-Cène. Et nous devons le faire aussi souvent que possible, parce que quand nous le faisons, nous annonçons la mort, la vie, la résurrection de Jésus-Christ. Et l'important à ce repas de Seder, ce n'est pas seulement de manger, de boire, c'est aussi de parler. Ça s'appelle la Haggadah, c'est-à-dire on parle de toute l'histoire de la sortie d'Égypte. On raconte ça, il y a les quatre questions des enfants, il y a toujours quatre questions, il y a 4 jours, on examine l'agneau du 10e au 14e pour voir s'il est bon. Jésus a été examiné pendant qu'il était pour voir s'il est bon, et après on l'a sacrifié. 4 jours d'examen de l'agneau, 4 aliments, 4 coupes, il y a 4 coupes sur la table, tous avec des noms, et il y a ces 4 questions que pose pourquoi, etc. Cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits, etc. Je ne reviens pas sur ces questions. Je ne reviens pas sur les aliments. Je voulais simplement dire que nous avons le privilège de comprendre que l'agneau, pour nous, notre passa, notre agneau pascal a été sacrifié. Et la Bible parle du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang de Christ est sur chacun de nous si nous l'avons accepté. Il est sur le sang d'aspersion. Et cet agneau de Dieu, c'est Jean-Baptiste qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais quand Jésus était sur la croix, il était le vrai agneau de Dieu. Et ensuite, on voit dans l'Apocalypse, Christian, tu peux prendre ma veste, j'ai presque fini, je vais arrêter parce que finalement je me pose la question. Si vous étiez resté chez vous ce soir, 3 heures dans un fauteuil, est-ce que vous auriez eu la même chose qu'en venant ici vous asseoir dans la présence de Dieu? Des fois c'est une bonne question parce que dans certaines églises on se demande s'il vaudrait pas mieux rester à la maison et se reposer. Mais je ne critique pas, mais je dis il est important que quand on va à l'église, on soit régénéré, renouvelé, fortifié, sinon ça ne vaut pas la peine de venir à l'église. Ma fille m'a téléphoné hier, Emmanuel, et m'a dit, écoute, j'ai l'impression de devoir te dire ça, parce que je sais que tu vas en France, dis-leur que la guérison est un symptôme de la présence de Dieu. La guérison est un symptôme de la présence de Dieu. Ne prie pas. Mais si la présence est si forte, tu seras guéri, tu seras vivifié, tu n'as pas besoin de faire autre chose. C'est bon, allez dans la présence de Dieu. Voilà ce que nous souhaitons, voilà ce que nous voulons, et voilà ce que l'Église doit présenter au peuple, la présence de Dieu. Justement, j'avais en feuilletant mes trucs, en retrouvant ça, j'ai vu une ancienne photo de 2002, c'était une conférence quelque part en Asie, et un photographe a fait la photo pendant la louange, et devant, ils n'avaient pas vu, il y avait des anges qui dansaient en blanc. Ça veut dire qu'il y a toujours ici la présence de Dieu, et quand on rentre dans cette présence de Dieu, il y a quelque chose qui change. Je me souviens d'un ami, quand on priait pour un cimetière un peu où il y avait tous les occultistes qui allaient chez nous, il avait fait une photo, ça remonte à quelques années, et quand il avait développé les photos, il avait vu des démons sur cette tombe où les occultistes allaient, qui étaient apparus, comme ici les anges, sous forme de démons. Donc, le monde spirituel est là, et ça veut dire, nous baignons dans cette présence de Dieu, et cette présence de Dieu est si importante qu'il faut absolument que nous fassions quelque chose pour la faire venir. Ma femme me dit souvent, quand bon, je dis une chose qui n'est pas trop bonne, elle me dit « change de disque ». Change de disque. Hein, c'est ce que disent toujours Arne et Elsie, toujours à force de regarder dans la cuvette du WC, tire donc la chasse d'eau et regarde ailleurs. C'est exactement ça. À force de regarder tes problèmes, arrête de regarder tes problèmes ou de dire des choses négatives sur toi. Regarde à Dieu et glorifie-le et dis-lui des belles choses. Ok ? Dieu cherche un peuple qui l'adore. Continuellement, je sais que vous avez des tabernacles, vous faites ça ici. Mais les devoirs à la maison sont plus importants que les devoirs en salle ici. Devoirs à la maison, ça veut dire le culte commence quand vous quittez ces lieux. À la cuisine, dans la chambre à coucher, à l'atelier, dans la rue, là où vous allez. C'est là que le culte commence. Dans la voiture, oui. Voiture, oui, je suis aussi français. Dans la voiture. Dans la voiture, dès que je passe la frontière, je suis différent, m'a dit ma femme. Juste en France, ça me prend, mais ça va mieux déjà. Avec les limitations, c'est vrai que ça va mieux. Mais c'est vrai qu'il faut que nous adorions Dieu, et cela régulièrement. La dernière fois, je vous avais parlé de mon petit appareil, ce réveil qui vous permet de dire tous les 10 minutes, « Ah, Seigneur, que tu es beau, Seigneur, tu es merveilleux. » Ça marche ? Tu le fais ? Alléluia. Et je propose que tous ceux qui ne le font pas l'essayent une fois pendant 3 semaines pour voir si ça n'a pas une différence. C'est-à-dire, quand tu as un problème, tu ne regardes plus à ton problème, tu regardes à Dieu, tu oublies ton problème. Et s'il revient, tu regardes à Dieu. Et ce petit appareil qui, dans ta poche qui fait du bruit, il te rappelle chaque fin moment, attention, il faut qu'à nouveau que je me concentre sur Dieu et je ne regarde pas ça. Si tu veux, tu donnes à Dieu tes problèmes. Et tu l'adores et il s'occupe de tes problèmes. C'est une expérience qui a été faite de milliers de fois et qui marche. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des personnes qu'il aime. Il cherche des amoureux de Jésus. Ça, c'est la seule personne qui peut entrer dans un couple qui s'aime pour avoir un troisième. Si ma femme a un autre et moi j'ai un autre, ça marche. Ça développe même le couple, si on a un troisième dans le couple. Et c'est pareil pour toi, Dieu cherche des amoureux. Dieu cherche des personnes qu'il aime de tout leur cœur et qu'il l'adore sans cesse. Moi, j'ai pensé en venant ici au ciel, j'ai vu ce beau ciel, tout ça, j'ai vu, j'ai dit, au ciel, qu'est-ce qu'on fait tout le temps ? Mais on adore. On dit, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, jour et nuit, saint, saint, saint. Mais est-ce qu'ils n'en ont pas bientôt assez ? Non. Vous savez que les anges sont blancs. Pourquoi sont-ils blancs et lumineux ? Parce qu'ils adorent. Plus tu adores, plus tu entres dans la lumière, plus tu emmagasines de rayons, plus tu rayonnes, plus tu deviens radieux, plus tu deviens blanc. Plus tu deviens lumière. Voilà. Je crois que c'est ça, une des clés pour le corps de Christ, de commencer à adorer Dieu dans toutes les circonstances et de ne pas regarder à ses problèmes. Et ça marche. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas, je voulais à vrai dire vous montrer ce soir, mais c'est pour une autre fois, le substitut. Le parfait substitut. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on voit Jésus qui est mort comme l'agneau pascal, on pense qu'à la croix. C'est très bon la croix. Ça, c'est la mort physique. Jésus était cloué là-haut, physiquement. Ça fait mal, c'est terrible. Mais ce n'est pas ça le plus terrible qu'il a vécu. Sinon, notre salut serait misérable. Là où Jésus a souffert le plus comme agneau de Dieu, c'est au jardin de Gethsémané. C'est au jardin d'Éden que l'homme a perdu l'autorité et c'est au jardin de Gethsémané que quelque chose s'est passé de puissant. C'est là que Jésus a sué des grumeaux de sang. Et c'est le seul endroit où un ange est venu le fortifier. Pas à la croix, mais au jardin. Pourquoi ? Parce que Jésus, qui était né sans péché est mort spirituellement. Il est mort spirituellement à Gethsémané. Son esprit est mort. Comme moi, j'étais mort quand j'étais inconverti, son esprit est mort. C'est pour ça qu'il a pu dire sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était séparé de Dieu, il était entre les mains du diable, il était prisonnier du diable, il était complètement perdu, bien qu'il soit fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait homme, il s'est vidé lui-même jusqu'à la croix, il est devenu serviteur jusqu'à la mort. Et c'est marqué dans Ésaïe 53, le beau verset, le beau passage, c'est marqué, en français c'est mal traduit au verset 9, mais vous relirez dans l'original, c'est marqué, il a été, son sépulcre a été parmi les malfaiteurs, parmi les méchants, et parmi le riche, dans ses morts au pluriel. Il a subi plusieurs morts, la mort spirituelle et la mort physique. Et on oublie souvent que tout ce que Jésus a porté, quand il est devenu péché, il n'a pas simplement porté sur son dos quelques vieux péchés et l'intérieur était pur. Non, l'intérieur était complètement pourri. Il est devenu, comme dit 2 Corinthiens 5, 17, il est devenu péché. Donc séparé de Dieu. Donc enfant de colère. Donc enfant du diable, donc perdu. Je m'excuse, mais je suis un peu radical, mais c'est la seule manière de comprendre comment on doit traiter les maladies. Ce n'est pas les quelques coups des Romains à la croix ou les clous qui ont traité les maladies. C'est ce moment, la maladie est spirituelle, et c'est ce moment où il l'a pris en Gethsémané, qu'il a pris la maladie. Il faut traiter les maladies spirituellement, pas physiquement. C'est spirituellement qu'il faut les traiter. Et c'est là qu'il a subit cette mort spirituelle et c'est là donc qu'il est devenu mortel. Avant il n'était pas mortel, mais là il est devenu mortel. Donc le reste n'était qu'une question de quelques heures. Ils l'ont cloué physiquement, donc il est mort physiquement. Et il ne faut jamais ce verset quand il dit les sept dernières paroles de Jésus sur la croix, vous les connaissez ? Devoir pour la maison. Étudier les sept dernières paroles de Jésus sur la croix. Il en a dit sept. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il était complètement perdu, séparé de Dieu la première fois parce qu'il était mort spirituel, son esprit était mort. Et ensuite, il a dit à son brigand, je te dis, aujourd'hui, double point, tu seras avec moi dans le paradis. On le traduit souvent, on dit, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. C'était faux, c'est marqué, je te dis aujourd'hui, tu seras un jour avec moi dans le paradis. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette phrase. Parce que Jésus, quand il est descendu de la croix, quand on l'a enterré dans le tombeau emprunté à Joseph d'Arimathée, son âme est allée en enfer, prisonnier de Satan. Il n'est pas allé au paradis. Il est allé d'abord en enfer. Donc ce brigand était en paradis plus tard. Donc, si vous voulez... Et quand il a dit « tout est accompli à la croix », ça ne veut pas dire quand il était cloué là-haut que le salut était fini. Il n'était pas du tout fini, il devait aller en enfer, il était prisonnier de Satan. Il fallait d'abord être délivré de Satan. Tout est accompli, ça veut dire l'alliance avec Abraham a été accomplie. Vous vous souvenez que cette alliance, il n'y a qu'une alliance, ou des fois on compte des tas d'alliances, mais qu'une alliance. L'alliance de la loi mosaïque, c'est une parenthèse pédagogique dans l'alliance d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, un jour, quelqu'un viendra et offrira son vrai fils. Yahvé Yiré, Dieu pourvoira à la vraie offrande à Abraham. Et quand tout est accompli, il a dit, ça y est. Maintenant, la vraie offrande, le vrai agneau a été offert. Parce que si moi ou toi, on aurait dit, bon, moi j'offre ma vie pour les péchés des autres, ça ne marche pas puisque je suis moi-même pécheur. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait le dos, l'intérieur libre, sinon il ne peut pas recevoir cette saleté. De ce fait, il fallait quelqu'un comme ça, comme Jésus, qui doive mourir spirituellement, mourir physiquement, les deux morts. Et ensuite, à la fin, il est allé en enfer. Et le psaume 88, c'est le meilleur psaume pour vous montrer les sentiments de Jésus en enfer. Le psaume 22, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je me souviens d'un chirurgien, un neurochirurgien, quand j'étais un an dans un hôpital, je travaillais en salle d'op. Le neurochirurgien, c'est un Allemand de l'Est qui n'avait jamais été instruit dans la religion chrétienne, ou communiste, tout ce que vous voulez. Il a une fois lancé à haute voix, pendant une opération de neurochirurgie, il a dit, je ne comprends pas pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il était donc le Fils de Dieu. Et moi, j'ai dit à haute voix, moi je le comprends. Heureusement qu'il a dit ça, sinon je ne serais pas sauvé. Sinon mon salut serait nul. Sinon, il n'y aurait aucun bénéfice de Jésus. Il fallait qu'il soit complètement mort pour que moi, je puisse, quand il est allé en enfer, évidemment, la justice divine était accomplie. Évidemment, il avait fait ce que Dieu a dit, si tu pèches, tu vas mourir. Il avait fait cela. Il était passé par la mort, mais lui-même, comme il n'avait jamais péché, la personne de Jésus ne devait pas rester en enfer. Et il fallait qu'il sorte de l'enfer. Et c'était ce grand combat avec Satan, ou après avec Dieu qui est intervenu, qui a dit, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations en les livrant publiquement devant tout l'enfer et en faisant d'eux un triomphe à la croix, Colossiens 2. Donc si vous voulez, il y a eu ce combat. Et après ce combat, Dieu, et ça c'est extraordinaire, Dieu a fait naître Jésus de nouveau en enfer. C'est marqué dans la Bible. Peut-être que vous êtes choqués, mais c'est marqué dans la Bible que Jésus a été justifié dans son esprit. Il a été rendu juste comme il a été rendu péché dans 1 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété, etc. Manifesté en chair, justifié, rendu juste dans son esprit, etc. Et c'est aussi marqué dans 1 Pierre, chapitre 3, quand Jésus a été mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui étaient du temps du déluge, avant Noé. Je n'explique pas ça maintenant, mais Jésus a été rendu vivant. Il était rendu vivant dans son esprit, en enfer. C'est très important à comprendre. Il a été rendu vivant d'abord dans son... avant de ressusciter, de sortir du tombeau. Il fallait qu'il soit rendu vivant. Il fallut qu'il naisse de nouveau. Et si vous voulez, c'était le premier né de nouveau en enfer, le premier né de nouveau d'une nouvelle race d'hommes qui allait sortir sur la terre. Satan pensait avoir fini avec Jésus. Et il y a des millions et des millions de petits Jésus qui vont naître de partout, dont vous et moi et tous les autres. Amen. Et c'est ça le mystère, une nouvelle race, un nouveau spécimen, un deuxième homme est né, et c'est Jésus qui est la tête et nous sommes le corps, et c'est lui qui est le premier-né. C'est pour ça que le Père dit, aujourd'hui je t'ai engendré, tu es mon fils, c'est ça la nouvelle naissance. Psaume 2, c'est aussi dans les actes, aujourd'hui je t'ai engendré. Jésus est le premier-né d'une nouvelle race d'homme, du deuxième homme, pas de Adam. Et après... il est sorti du tombeau avec une victoire pleine sur l'adversaire. Et cette victoire, il faut que nous la célébrions. Ok ? Amen. Je veux qu'on célèbre cette victoire. Je vous ai donné un peu quelques petites choses qui me passionnent, mais je crois qu'il faut comprendre ce que Jésus a fait. Et on pourrait continuer ce qu'il a fait pendant les 40 jours, ce qu'il a fait, mais ça suffit aujourd'hui. On est à la résurrection. Et la résurrection, quand il est sorti, et il faut aussi faire aux femmes, dire aux femmes, heureusement que les femmes étaient courageuses. C'est elles qui ont découvert le tombeau vide. Au chant du coq le matin, elles sont parties quand il faisait encore nuit. Les trois femmes un peu folles. Pas folles, mais un peu, disons, comment dirais-je, des femmes qui n'avaient peur de rien, qui étaient prêtes à risquer leur vie, qui ont couru au tombeau dans ces temps difficiles à Jérusalem, dans ces rues désertes avec tant de brigands. Elles ont couru toutes seules au tombeau parce qu'elles étaient intérieurement poussées par quelque chose. Et c'est eux qui ont dit, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, etc. Et je crois que là où les hommes acceptent la résurrection, les femmes sont libérées. Je crois que la résurrection a à faire quelque chose avec la libération aussi de la femme. Aussi dans ces sociétés où les femmes ne sont pas libérées, les hommes ne croient pas à la résurrection. Et je crois que c'est important que nous proclamions ce message de la résurrection. Et c'est le message central, notre message. C'est Christ, n'est pas ressuscité. Ça ne sert à rien d'être chrétien. Amen. Allez.